Pour la philosophie première, par le permis Dominique Philippe, le 15 mai 2002 à Saint-Gédard.
Il y a plusieurs questions. Vous avez dit, la personnalité humaine parfaite implique les deux, hommes et femmes, dans un complément, dans une complémentarité. Vous avez montré cela dans l'amitié homme et femme qui naturellement se fait dans le mariage vie commune des deux amis complémentaires. Mais y a-t-il aussi une complémentarité naturelle de l'homme et de la femme dans une vie religieuse, dans une amitié spirituelle? Faites attention où je me suis placé d'un point de vue philosophique, hein, avant de découvrir l'existence de Dieu. Donc, tout est repris dans une sagesse, dans la lumière de Dieu. Mais ici, je me suis placé, après avoir analysé point de vue philosophique, métaphysique, la substance et l'acte. Et je vois comme modalité particulière, propre à l'homme, la personne. Ça n'existe pas pour la vache. Vous ne dites pas une belle personne. C'est une belle bête. Donc, c'est le caractère propre de la personne. Avant d'avoir découvert l'existence de Dieu, et ayant découvert l'existence de Dieu, on regarde tout de suite le problème de la création. Et il y a un nouveau regard. Et il faut bien respecter la recherche. C'est très important. Parce qu'autrement, alors, tout de suite, on fait appel à d'autres éléments. Oui, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais il faut être très net là-dessus. Bon. En philosophie, je prouve l'existence de Dieu. Avant d'avoir prouvé l'existence de Dieu, je n'ai pas le droit de parler de Dieu. Donc, je ne parle pas encore d'une vie spirituelle. Je peux en parler, c'est sûr, il y a une finalité. Mais c'est beaucoup moins caractéristique. Vous voyez ? Alors ça revient à la finalité. La finalité de l'homme et la finalité de la femme sont les mêmes. Ça, il faut bien le dire. Il y a une personne, homme, une personne, femme. Donc, ils ont même finalité. Alors, voir la différence de la contemplation de l'homme et de la femme, ça ne peut pas se voir du côté de la contemplation. Elle est la même. Mais ça se voit du côté des dispositions. Alors, du côté des dispositions, la manière d'éduquer une femme à être contemplative, point de vue philosophique, et la manière d'éduquer un homme pour être contemplatif ne sont pas tout à fait les mêmes. Oui. C'est dans la via, dans la voie, où il y a différence. Parce que c'est le mouvement, c'est le devenir. Et au point du devenir, il y a une différence. Mais il y a la même fin. la fin de l'homme et la fin de la femme sont les mêmes. Amitié, contemplation. Ça, c'est sûr. Ce que je cherche là, c'était la différence. Donc, je ne parle pas de ce qui est commun. C'est présupposé. C'est présupposé à la personne humaine. On a vu avant qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine. Donc, cette chose commune de la personne humaine est vue. Je vois maintenant la diversité dans le pos, dans le comment. Donc forcément, tout ce qui est commun, je n'en parle pas. C'est présupposé connu. Or, on a vu que la personne humaine implique le point de vue de la contemplation, l'intelligence, le point de vue de l'amour, le point de vue de la volonté, toutes les diverses dimensions de la personne. Elles sont communes, alors je ne les reprends pas. J'essaie de voir la diversité. Alors forcément, dans la diversité, tout ce qui est commun est présupposé. Et j'essaie de voir la diversité entre les deux. Oui. Donc je ne reprends pas ce qu'il y a de commun. Ce que je dis alors ici sur la personnalité de l'homme et de la femme, c'est pas complet. Tout ce qui a été dit avant, au point de vue métaphysique, est présent. C'est bien important de voir ça. Mais y a-t-il aussi une complémentarité naturelle de l'homme et de la femme dans une vie religieuse, dans une amitié spirituelle? Alors, je vois leur diversité. Et voyant leur diversité, on voit leur complémentarité. Forcément. Quand je vois l'unité qui existe entre l'homme et la femme du côté contemplatif, c'est pas là que je comprendrai leur complémentarité. C'est en voyant leur diversité. Et leur diversité se fait surtout voir dans le devenir. Nous sommes au niveau du pos. Donc c'est pas complet du tout ce que je dis. C'est uniquement du côté de la diversité. Un peu plus loin, y a-t-il seulement une complémentarité dans l'acte des choses sensibles et végétatives? Ou bien y a-t-il aussi une complémentarité dans l'ordre spirituel, dans l'ordre intellectuel? Pourquoi et comment? C'est sûr. Quand je vous ai dit la dernière fois que la femme était du côté de la disposition, ça c'est spirituel. Et quand vous regardez ce que c'est que la disposition au point de vue éducation, vous voyez tout de suite la différence. La femme a beaucoup plus le sens de la disposition, ex parte materiae. La disposition se prend du côté de la matière, toujours. Et c'est pour ça qu'Aristote, à un moment, dit « la femme est comme la matière ». C'est-à-dire, elle forme le nid. Et c'est très vrai, quand vous regardez, très significatif de regarder un foyer, une maison. Qu'est-ce qui fait la disposition de la maison? Qui fait que la maison est un nid? C'est la mère, beaucoup plus que l'homme. L'homme viendra pour dire, c'est pas comme ça, mettez autrement. Beaucoup plus. Et il y aura quelque chose de beaucoup plus déterminé. C'est ce que j'appelle logique. Alors, je ne prends pas la logique dans le sens art logique. Je la prends dans le sens ordinaire de l'ordre. Vous voyez ? l'homme a plus de sens de l'ordre, qui est le point de vue spécifique. Alors, y a-t-il une différence dans la contemplation ? Alors là, c'est très délicat. La contemplation, c'est le point de vue de l'amour et de l'intelligence. Alors, je vous avais dit que du côté contemplation, la femme, ordinairement, a beaucoup plus ce sens de l'amour. L'amour, c'est ce qui enveloppe. Elle est du côté de la disposition et du côté de la fin, l'amour a une place plus grande dans la contemplation de la femme que dans la contemplation de l'homme. Mais amour et intelligence sont toujours présents, les deux. Il n'y a pas de contemplation sans intelligence. Or, si la femme contemple, elle contemple aussi avec son intelligence de femme. Et son intelligence féminine est plus en dépendance de l'amour que celle de l'homme. L'homme, trop facilement, raisonne toujours. Il a beaucoup de peine d'abandonner le raisonnement et d'entrer dans la contemplation. Alors là, il y a une très grosse différence. La femme, beaucoup plus facilement, à cause de l'amour qui est plus parfait. Oui. Ce n'est pas un changement substantiel. C'est un changement du pose, du comment, de la manière de le vivre. Mais pour les deux, c'est la contemplation. Et la contemplation relève de l'intelligence et de l'amour. Ça relève de la sagesse. L'habitus de sagesse, habitus contemplativus. C'est un habitus contemplatif. Alors, est-ce que la femme est plus portée à la contemplation que l'homme ? Je dirais non, parce que la nature humaine demande comme finalité la contemplation. Mais la femme y arrive plus facilement par l'amour, et donc y arrive ordinairement plus rapidement que l'homme. L'homme doit dépasser son sens logique, qui est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que la philosophie étant souvent relégué aux hommes, sera très souvent, elle s'arrêtera à la logique. Elle n'ira pas plus loin. L'homme devrait arriver à la contemplation, et la contemplation de l'intelligence et de l'amour, mais de fait, il a beaucoup plus de difficultés. La plupart des hommes demeurent dans leur raisonnement. Oui. Et ont une difficulté beaucoup plus grande d'arriver au point de vue de la sagesse. C'est un fait, ça. Je crois. Beaucoup d'hommes arrivés à 30 ans, 35 ans, aiment beaucoup mieux rester dans la logique. Pour eux, c'est pas la logique, c'est l'ordre. L'ordre, c'est très bien, mais ce n'est pas la contemplation. Ils sont un peu perdus dans la contemplation. Ils ont de la peine. Je me place pas d'un point de vue spirituel, mais au point de vue spirituel, on découvrirait ce point de vue-là. Et la femme découvre tout de suite si elle a affaire à quelqu'un, à un homme qui a saisi la contemplation et l'homme qui reste uniquement dans ses raisonnements. Elle le sent beaucoup plus vite que l'homme. Et alors ça, c'est le point de vue justement de le lien entre intelligence et volonté. Tous les deux, quand ils aboutissent à la contemplation, c'est l'intelligence et la volonté. Mais chez la femme, l'aspect affectif est ordinairement plus développé, beaucoup plus développé. Et l'aspect logique est beaucoup plus vite dépassé. Des femmes qui sont très logiques sont ordinairement très impératives. Elles ont eu beaucoup de peine à l'atteindre, alors elles le gardent très fort. C'est très curieux, ça. Je voyais samedi et dimanche à Genève avec le point de vue de l'agapé, je voyais des acteurs qui me parlaient la façon différente dont une femme artiste dirige et ordonne une pièce et la manière dont un homme le fait. Alors, écoutez, ça m'intéressait de voir ça parce que, comme artiste. Alors, il donnait cette constatation et ça rejoint exactement ce que je vous dis là. Donner cette constatation que lorsqu'une femme dirige pour une pièce, la mise en ordre est beaucoup plus impérative chez la femme que chez l'homme. Autrement dit, quand la femme atteint ce que c'est et ce que cette exigence de l'ordre, de l'organisation, de la manière d'interpréter une scène de théâtre, elle est beaucoup plus impérative dans la manière dont chacun doit tenir cette place et d'autres qu'alors qu'un homme est plus souple. Et c'est très significatif parce que ça montre quelque chose qu'on acquiert difficilement. Quand on l'acquiert, on y tient beaucoup mieux, beaucoup plus. Quelque chose qu'on acquiert facilement, on dit bien, très bien, ça n'a pas d'importance. On a un amour très développé pour quelque chose qui est difficile d'acquérir. Et alors on tient très fort. C'était intéressant à voir. Et je crois que c'est vrai, ça. Alors, vous comprenez, il faut bien saisir cette recherche. Elle se situe du côté du pos, pas des principes, du comment. Et elle présuppose tout ce que nous avons vu avant. Et donc, je ne saisis que la diversité. Ce qui est commun, je ne le dis pas, puisque ça a été dit. La finalité de l'homme, c'est la contemplation. La finalité de la femme, c'est la contemplation. Ils ont même faim. La finalité intermédiaire de l'homme et de la femme, c'est l'amitié. C'est vrai pour la femme et c'est vrai pour l'homme. Mais il y a une manière différente d'aboutir à la contemplation. Et une manière différente d'aboutir à l'amitié. Oui, la diversité du pose est dans la voie d'accès, le devenir. Est-il nécessaire qu'un père et une mère qui se sont mariés, finalisés au niveau de la nature et de la procréation, soient aussi les amis finalisés par l'amour spirituel avant le mariage? Ça dépend des cas. Je ne peux pas émettre là, dire il vaut mieux. Ça dépend des cas. Avant le mariage, le point de vue essentiel, c'est de comprendre que l'homme et la femme désirent fonder ensemble un foyer. Là, ça, c'est essentiel. Et que l'un et l'autre, et en gros, vous comprenez bien, la même manière de comprendre ce que représente la procréation, ce que représente l'éducation. C'est déjà bien. L'un et l'autre développeront ce point de vue-là, ces deux finalités. Finalité dans d'une certaine manière absolue, mais l'un et l'autre développeront cette recherche à leur façon. Si ils sont d'accord pour la finalité, ils arriveront en vivant ensemble d'être d'accord sur les modalités. Mais les modalités, on ne peut pas les préciser d'avance. On les précise en vivant. On sait qu'il y a des modalités différentes, que la femme saisit beaucoup plus rapidement ce que représentent les exigences de l'amour. Elle en a plus besoin parce qu'elle est lors la disposition, la femme cherche toujours. L'homme aime mieux, il est plus sensible à découvrir et à se reposer. On ne peut pas demander à un homme de chercher tout le temps. Et une femme cherche beaucoup plus toute sa vie. L'homme, oui, il aime bien se reposer. Et on doit, vis-à-vis de l'homme, être beaucoup plus attentif que le repos ne dure pas trop longtemps. Alors qu'on n'a pas du tout la même exigence à avoir vis-à-vis de la femme. C'est très, très étonnant de voir ça. On le voit dans le foyer, ça. On a tous à réfléchir si on a vécu dans une famille normale, mais on a vu ça. La mère travaille tout le temps. Elle a tout le temps quelque chose à faire. L'homme, pas du tout. Quand il revient du bureau ou quand il revient du travail, on se repose un peu. Il reprendra après une autre activité, il se repose un peu. Alors, vous voyez, je pourrais le voir Alors, dans la vie religieuse, mais c'est pas mon but, hein. Mais dans la vie religieuse, je verrai ces influences-là. Et elles seront beaucoup moins fortes parce qu'il y a une finalité beaucoup plus forte, commune pour l'homme et la femme. Ils sont tous les deux chrétiens. Et dans la mesure où la vie chrétienne s'empare de l'homme et s'empare de la femme, ils se rejoignent. Le point de vue chrétien fait une unité beaucoup plus forte. La diversité est dépassée, aussi bien dans l'amitié aussi. C'est très étonnant, ça. Et dans la vie religieuse. La vie religieuse est un facteur d'unité. Pas de diversité, d'unité. Et elle s'enracine dans la diversité. C'est évident. Elle s'enracine dans la diversité. Le noviciat d'un moine et le noviciat d'une moniale n'ont pas le même rythme. Et on doit donner conseil en tant que prêtre, pas en tant qu'homme, en tant que prêtre, donne des conseils à la maîtresse novice, si la maîtresse novice le demande. Il ne faut jamais s'imposer. On fait des gaffes énormes. L'homme aime de s'imposer. S'il ne fait pas grande attention, il s'imposera. Et alors ça fait des choses qui ne vont pas. La maîtresse de novice, elle est chez elle, maîtresse de novice. Le maître de novice est chez lui maître de novice. Et si une sainte religieuse venait dire « Mon père, vous faites très mal votre métier de maîtresse de novice », il ne sera pas très content. Oui, il y a quand même, quand on connaît et qu'on sait la diversité, on est beaucoup plus prudent. Parce qu'on respecte l'autre. Comme dans l'amitié, on est beaucoup plus prudent, on respecte l'autre. Il y a quelquefois beaucoup plus de diversité entre deux novices hommes qu'entre un novice homme et une novice femme. Si le novice homme est très profondément chrétien, l'ami du Christ, la novice femme est très profondément chrétienne, amie de Marie, il y aura une proximité très forte entre les deux qui dépassera la diversité qui existe entre hommes et femmes. La vie chrétienne, quand elle est vraiment vécue comme vie chrétienne, met une unité beaucoup plus parfaite. Parce que la finalité étant la même, et s'il y a une ferveur, la finalité est présente dans toutes nos activités. Et elle met dans toutes nos activités une modalité très forte, qui l'emporte. Ça, c'est très net. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour dire ce que je dis là, c'est in via, c'est dans le point de vue du devenir. Et quand la finalité est très vécue, elle télescope Elle assume le devenir. Le devenir est vécu, autrement dit, le devenir est vécu très différemment chez un saint que chez un parpaillot. Chez le saint, la finalité est présente dans le devenir. Et le devenir est toujours finalisé. Et par le fait même, il prend une modalité très différente, bien plus rapide, beaucoup plus rapide. Tandis que chez, au contraire, celui qui a de la peine de vivre la sainteté, le devenir est beaucoup plus important. Et je crois que ça fait des très grandes diversités, ça. Vous voyez, un permettre saint, ce qui doit être toujours, un permettre de toujours être saint, un permettre saint, voit toujours la finalité. Le novice qui est beaucoup moins saint, lui, voit la difficulté. Et le novice, avant tout, avant de redécouvrir la finalité qui l'attire, au début, c'est difficile, pas commode. Et il faut le permettre qu'il lui. Il est pris par la finalité. Il dit, mais c'est élémentaire ce que je vous demande. Et alors le novice dit, ah, le permettre ne me comprend pas. Il ne voit pas. Comme c'est difficile, comme je. Oui, et ça, c'est. Au point de vue personne, c'est qu'on devient une personne, on devient un saint. Et donc, on est à des hauteurs très différentes, très vite. Et quand vous gravissez une montagne, quand vous êtes à 1000 mètres, vous vous retournez. Un beau paysage. Quand vous êtes à 2000 mètres, vous retournez. Le paysage est différent. À 3000 mètres, à 10000 mètres. Vous voyez ? Et au fond, la hauteur, c'est la finalité. Où est-ce que vous en êtes ? Si j'avais un compteur de vitesse, à mon compteur de vitesse, je suis à cette vitesse-là, près de ma finalité, tout proche. Et celui qui entre, il en est très loin. Donc on a cet exemple, mais très simple, nous avons tous fait cette expérience-là. Quand on gravit une montagne, regardez, par derrière, on a monté, on voit ce qu'on a fait. Et la vision est différente, et la vision en avion est encore plus différente. Mais l'avion change énormément les perspectives, notre imagination. Quelqu'un du Moyen-Âge n'avait pas la vision de l'avion. Et donc, dans son imagination, il y a quelque chose qu'il n'a pas et que nous avons. Et ça, ça joue tout de suite vis-à-vis de la prudence. On va plus ou moins vite. Saint Thomas nous dit, cette petite remarque très simple, il dit, le grave augmente sa vitesse plus il s'approche du centre de la Terre. Et vu la comparaison, le monde, sans savoir quand sera la fin du monde. La rapidité du changement se fera d'autant plus grande qu'on est proche de la fin. C'est très curieux, ça. Et on a cette expérience de l'avion qui fait que tout va beaucoup plus vite. L'expérience du TGV, tout va beaucoup plus vite. L'expérience de l'auto, tout va beaucoup plus vite. Et quand on partait sur un âne, ça allait moins vite. Alors, on avait le temps de méditer. Aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on médite beaucoup moins. Il y a une modification de notre mémoire, il y a une modification de notre prudence. Parce que le temps joue énormément. Alors on pourrait se poser la question, vous voyez, est-ce que le temps est saisi différemment chez la femme que chez l'homme? Ça serait une question très intéressante. C'est la question de l'imagination. Parce que le temps est conçu énormément par l'imagination. Vous voyez, quand vous ne dormez pas, par exemple, et que le sommeil ne vient pas, comme le temps est long, quand vous dormez, comme le temps est court. C'est le même temps. Il n'y a pas de temps différent. Mais il est perçu. Il est conçu différemment. Et cette conscience qu'on a... Alors aujourd'hui, cette conscience joue énormément parce que elle remplace même l'objet dans une vision de relecture. L'objet, c'est ce qu'on a vécu. C'est pas l'objet réel, c'est ce qu'on a vécu. Et alors on l'a vécu très différemment. Alors quand on dit que c'est le réel, mais non, c'est pas le réel, c'est ce que vous avez vécu du réel. Et Dieu a vécu ce même réel tout à fait différemment que vous. Puisqu'il l'a vécu dans son éternité. Il n'y a que dans l'éternité où la subjectivité et l'objectivité se rejoignent. Et c'est ça l'éternité. C'est un des aspects de l'éternité. Vous voyez ? Alors, c'est ça l'intérêt du pos, du comment, au point de vue philosophique. C'est beaucoup plus complexe. Et ça demande une très grande finesse. Vous voyez ? Saisir un principe, c'est net. Saisir une manière d'être, une via, une route. C'est tous les petits détails jouent. Oui, je prenais l'exemple de quand on passe une mauvaise nuit. Qu'est-ce que c'est que de passer une mauvaise nuit ? J'ai des zones de ne pas dormir. Alors la nuit était très longue. Et elle ne nous a pas reposé du tout, ou très peu. Tandis que si vous dormez 5 minutes, il y a un arrêt. Bon, c'est la subjectivité et l'importance de la subjectivité et la difficulté de dépasser la subjectivité pour avoir une objectivité. Et l'objectivité, c'est justement ce fait que la nuit a toujours été aussi longue. Que vous ayez dormi ou n'ayez pas dormi, la nuit est toujours là. Et la subjectivité, c'est la durée de la nuit que vous avez vécue. C'est le vécu. C'est très important de distinguer ça et de le prendre dans des domaines très simples où notre affectivité n'est pas engagée, parce que notre affectivité va donner une valeur primordiale au vécu. parce que seul le vécu intéresse l'affectivité. Et c'est pour ça que c'est difficile de dépasser l'affectivité pour avoir une objectivité réelle. Mais d'autre part, l'affectivité est très importante, puisque c'est notre vécu. Alors, lorsqu'il s'agit de distinguer l'homme et la femme dans leur perspective, c'est évident que le point de vue affectivité joue beaucoup. Une femme ferait ces distinctions que je fais maintenant, elle le ferait sans doute très différemment. Je ne peux pas les faire comme une femme le ferait. Je le ferai mal. Je le fais comme un homme essaie de corriger sa subjectivité le plus qu'il peut pour maintenir une objectivité du comment. Alors, dans les deux derniers cours, vous avez distingué la personnalité du père et de la mère, en montrant combien la femme était du côté de la disposition par son lien avec la cause matérielle et l'homme du côté de l'ordre, de la logique. Mais regardez l'homme seulement du côté de la logique. Vous voyez, je regarde l'homme dans sa modalité particulière. L'homme a plus le sens de la logique, mais c'est pas... Un homme qui ne serait que logique, pauvre type, très pauvre type, parce qu'il ne pourrait rien dire de Dieu, il ne pourrait rien dire de la métaphysique lui échapperait. Je veux montrer qu'il y a dans l'homme une tendance à la logique, et qu'il est plus difficile pour l'homme de dépasser la logique que pour une femme. Alors ça... Ordinairement, quand une femme devient très logique, c'est très pénible pour l'homme. Très logique. Très vite, vous dites, ah, elle est malade. Elle voit tout sous l'aspect de la logique. Mais regarder l'homme seulement du côté de la logique montre... semble un peu réducteur, c'est sûr. Mais je ne le vois pas comme ça. Je vois ce qui caractérise sa manière de regarder les choses. Et c'est plus que la logique, art logique, c'est l'ordre. N'est-ce pas un peu caricature de ce que doit être l'homme, sûrement. Ne peut-on pas dire que l'homme est du côté de l'ordre, c'est en vue de la finalité. Là. Alors là, voilà, là je suis très bien. Il y a deux manières d'ordonner la vie. Il y a deux ordres différents. L'ordre de la finalité, et c'est très bien que ce soit une sœur qui le rappelle, l'ordre qui vient de la finalité et l'ordre qui vient de la cause formelle. Et ça, en effet, je crois que c'est peut-être là où on touche le plus les oppositions qui peuvent exister à l'intérieur d'un foyer, les oppositions qui peuvent exister entre une communauté masculine, communauté féminine. Dans une communauté féminine, l'ordre doit venir de la finalité, et c'est juste. Dans une communauté d'hommes, l'ordre, souvent, est du côté de la forme. Donc beaucoup plus logique. Beaucoup plus facilement logique. Il glisse plus vite à la logique. Ne peut-on pas dire que par le Père, il y a quelque chose de spécial du côté de l'esprit et de la communication de la lumière? Oui, on peut dire que l'intelligence de l'homme aura un sens plus aigu de la forme, de la cause formelle. Et il aura la tentation, je dis bien, de tout ramener à cet ordre. Vous voyez, il y a deux lectures, là je prends une chose très simple, il y a deux lectures de la somme théologique de saint Thomas. La lecture de celui qui regarde l'ordre qui vient de la cause formelle et une lecture qui vient de l'ordre qui vient de la finalité. Ça, c'est très net. Il y a une manière d'être thomiste, de ramener saint Thomas à la logique. Cela a existé. Puisqu'au XIVe siècle, pas très longtemps après saint Thomas, il y a eu un théologien qui a tout ramené à l'ordre logique. Et ça demeure toujours. Dans la scolastique, il y aura les logiciens. Parce que je connais la réflexion d'un philosophe qui se dit thomiste, qui a fait cette réflexion. Si on m'interdisait d'enseigner saint Thomas pleinement en me disant de choisir uniquement un aspect, je choisirais la logique. Moi, j'aurais dit, je choisis la métaphysique. Oui, c'est intéressant. Alors, on peut tout ramener à un ordre qui vient de la cause formelle, tout ramener à l'ordre qui vient de la cause finale. Alors, c'est peut-être là qu'on verrait les tentations féminines et masculines. Je dis les tentations. L'homme a une tentation toujours de ramener tout à un ordre logique formel. Je voyais quelqu'un, que je ne cite pas le nom, pas la peine, c'était un dominicain, qui me disait il y a 20 ans, dans 15 années, 20 années, il n'y aura plus que la logique formelle. Tout le reste disparaîtra. Il n'y aura plus que cet ordre-là. Parce que la logique formelle est reçue chez les mathématiciens, chez les savants et chez les philosophes. Tandis que la finalité, il n'y a que le philosophe qui la découvre. Le mathématicien, cause formelle, cause exemplaire, le savant aussi, il n'y a que le philosophe. Vous voyez, c'est très vrai que, à creuser bien, on verrait que la tentation qui guette toujours l'homme, l'homme arrivé à 35 ans, l'homme arrivé à 40 ans, il a la tentation de tout ramener à l'ordre formel et voir uniquement cet ordre-là. La femme a la tentation de tout ramener à l'ordre de la finalité. voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que dans une vision de sagesse, donc de finalité, l'intelligence et l'amour doivent coopérer ensemble. Du côté féminin, l'amour prédomine. Du côté masculin, l'intelligence prédomine. Alors, vous avez cette distinction entre l'attraction de la cause formelle qui veut tout prendre, l'attraction de la cause finale qui veut tout prendre. Alors, c'est très intéressant à voir parce que les tentations révèlent ce qui ordinairement est caché. Les tentations, quand on a l'emprise, quand on est séduit par la tentation, ça prouve qu'on est complice. Si on n'était pas complice, on ne serait pas séduit. Et mais la tentation séduit celui qui est complice. Il y a une complicité cachée. Nous avons tous des complicités cachées. Et c'est pour ça que la tentation, quand elle touche là, elle a une emprise sur nous. On se laisse aller. Parce qu'on est déjà orienté vers cela. Alors, je crois qu'on pourrait dire ça, et c'est peut-être ça qui montrerait le mieux la différence au point de vue via, au point de vue manière de progresser. La tentation permanente de l'homme, c'est de revenir à la cause formelle. Et la cause formelle, elle est parfaitement développée en logique mathématique. Et là, il y a une très grande tentation. Il y a une double tentation. Et tous les deux sont des penchants très masculins. C'est propre, c'est net. On aime ça. Et puis, on le possède. La logique mathématique, on la possède. C'est un art. Donc on le possède. Donc vous voyez, il y a l'instinct de domination. Or, l'instinct de domination le plus fort, c'est l'instinct de domination au point de vue de l'intelligence. Saisir et mesurer et critiquer, c'est toujours cet instinct de possession. Or, qu'est-ce qui peut être possédé dans le point de vue formel? C'est la logique. Je possède ça. Et l'autre tentation chez la femme, c'est beaucoup plus le point de vue de la causalité finale par l'amour. Et c'est donc de tout ordonner en fonction de la causalité finale. Et ce que je vous disais, la femme est du côté de la disposition et du côté de la fin. Ça, elle excelle des deux côtés. L'homme est beaucoup plus du côté de la cause formelle. D'où le danger de tout ramener à la cause formelle et donc, en définitive, de tout ramener à la logique. Et pour la femme, le danger de tout ramener ou à la matière, disposition, où, à la fin, se dire à l'amour. Et je crois que là, on voit bien les tentations. Et les tentations nous mettent en valeur ce que il y a chez l'homme et chez la femme, souvent caché, non explicité, mais présent. La tentation d'un formalisme, la tentation d'une souplesse exagérée de l'amour. Aime et fais ce que tu veux. Oui. On dit toujours que c'est saint Augustin, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait ça. C'est aimer Dieu. Alors, si on aime Dieu, et aimer Dieu, c'est pas faire ce qu'on veut. Mais il y a ce point de vue-là. Hein. Dans la jeunesse moderne, puisqu'on aime, c'est bien, et on s'y jette à corps perdu. L'amour efface tout. L'amour rend tout digne. Or, ce n'est pas juste. L'amour présuppose toujours la cause formelle. Toujours. Le véritable amour, c'est un dépassement de la cause formelle. C'est pas la négation de la forme. C'est pas parce qu'on aime qu'on a le droit de dire que ça n'existe pas. La cause formelle. Donc, vous voyez, c'est à titre de recherche, hein, au point de vue philosophique, mais c'est très important et très intéressant à voir que vrai. La personne humaine a deux grandes modalités qui demandent de s'unir. Et en s'unissant, elle respecte toute la richesse de la personne humaine dans l'amitié. Et dans la contemplation.